projet.
Emmanuel Loi est écrivain, il vit actuellement à Marseille. Il est l'auteur de 14 livres, dont L'écriture de peu, De fer et Marseille, Nu, L'argent et la mort, La vie périmée, et tout récemment, La dette.
Nous nous sommes battus dans les champs, partout nous nous battons pour faire reculer le libéralisme. Eh bien, nous continuerons ce
combat. La politique de la vie que j'entends mener.
Bonjour. À l'approche des élections, Radio Grenouille m'a invité pour tenir une chronique à quatre reprises jusqu'à la date fatidique du mois d'avril. La situation est épique et tragicomique dans la mesure où une multitude de candidats postulent pour un poste qui a l'air d'être épatant pour qu'ils soient si nombreux. L'endettement de la France, parlons-en un peu. Il est situé à 1100 milliards, 1150 milliards exactement d'euros. C'est le pays le troisième endetté le plus au monde après les États-Unis. Et les gens n'en parlent pas. C'est quelque chose qui, c'est pas la peine d'en parler. Faisons l'impasse dessus. C'est un pays qui va bien. Septième puissance mondiale, dépassé par l'Espagne avant qu'elle était derrière nous. On prend même pas un petit État américain. On est au niveau de la Californie, qui lui-même est un État donc qui était entre la 7e et 8e puissance mondiale, à lui tout seul. Notre patrimoine, c'est certainement, avant, c'était l'espace vert, comme disait Giscard d'Estaing. Maintenant, c'est notre cerveau, la matière grise. C'est un pays qui est assez cossu, riche, qui vend beaucoup de services assistés, beaucoup d'armes, hein, troisième exportateur d'armes au monde. Mais son endettement, personne n'en parle. Et aucun candidat, même le moustachu Astérix jusqu'à les grenouilles de bénitier sorties à peine de la glaise, n'évoque ce sujet, l'endettement. Les pays d'Afrique sont très endettés. On a décidé, à Bamako et ailleurs, de régler une partie de leurs dettes, hein, d'éponger le déficit que l'Afrique aurait contracté auprès des superstructures internationales. C'est un geste symbolique, charitable, qu'il faut soutenir. Mais l'accroissement de la dette augmente, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont tels que les agios dépassent 15 à 18% chaque année, et donc c'est une culbute. Tant qu'on ne règle pas ce problème des exportations, importations, qu'on régule, pas simplement au niveau européen, au niveau international, le fossé va se creuser. Première chose. Donc, en période où la parole politique est identifié à un jeu du cirque, un jeu de gladiateurs. C'est eux-mêmes, que ce soit monsieur au sommet compensé, comme la diva des médias, se bataillent pour, sous effet médiatique, pour un enjeu assez pathétique. Personnification du pouvoir, jeu de rôle où le programme est annexe. Le programme est sorti, soi-disant, en 100 points, qu'on lise celui de l'UMP ou celui du PS pour les citer, hein, on ne va pas faire les hypocrites jusqu'au bout, on voit bien que c'est du papier collé, hein, que c'est pas collé serré, mais c'est... Voilà. Hein. Aucune inventivité là-dedans, toujours les mêmes salades, toujours le même vieux banc. Les autres partis, les autres propagandistes, c'est encore extraordinaire. Si vous regardez le programme des petits partis d'extrême-gauche, ils sont aussi très curieux dans la mesure où ils sont adaptés à un modèle dépassé de développement qui concerne les années 80-90 et pas à une époque du flux tendu, des flux financiers inouïs, une accélération totale des flux qui dépassent même l'actionnariat. Comme le monde se rétrécit, que les distances s'abolissent par le satellite et les médias, que les images de luxe sont projetées en pleine savane, que les feuilletons universalisent un monde de riches en décapotables et de piscines, perçus comme un affront ou un mirage, hein, pour le type qui gratte la terre pour en extraire de quoi ne pas crever de faim, hein, Dallas dans les favelles, je pense que ça le fait. Voilà, donc c'est évident qu'on présente, on universalise des images de luxe, de débauche, à des gens qui n'ont même pas de quoi manger ou survivre. Donc ça fait un rétrécissement du monde. Baudrillard, qui vient de disparaître, écrivait en 71, cela date, il faut ouvrir vos brévières, hein, tout le monde peut retravailler un peu dans le temps, C'était dans « Pour une critique de l'économie politique du signe », chez Gallimard. Il dit « Dans le fétichisme, ce n'est pas la passion des substances qui parle, que ce soit celle des objets ou du sujet, c'est la passion du code qui, réglant et se subordonnant à la fois objet et sujet, les voue ensemble à la manipulation abstraite. C'est là l'articulation fondamentale du procès d'idéologie, non dans la projection d'une conscience aliénée dans les superstructures, mais dans la généralisation même à tous les niveaux d'un code structurel. C'est pas très facile, hein. Ça demande de le lire, d'avoir sous les yeux, de l'étudier. Mais on voit quand il dit que ce n'est pas la passion des substances qui parle, c'est une expression très spinoziste, hein, et c'est la passion du code, cette passation perverse est un signe de la pathologie des temps modernes, c'est la ségrégation moderne avec des différences de revenus colossales. Dans une ville de 70 000 érémistes comme Marseille, hein, donc c'est un peu, c'est 8% de la population, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Hein. Ça va très bien pour des gens qui habitent au Roucas Blanc, impasse Nicolas. Voilà, les inégalités ne peuvent faire que croître dans une barbarie moderne. Donc l'accélération, l'augmentation des inégalités est un signe, il paraît pour les libéraux, de croissance, mais c'est une réalité. Voilà, c'est important de souligner ça. Le combat contre l'ignorance, contre l'obscurantisme, doit nous amener, en période d'élection, à tirer le bilan des penseurs les plus intransigeants, les plus captivants des 20 ou 30 dernières années, que ce soit Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard ou Gilles Deleuze. C'est le moment d'activer, pas seulement ses neurones, d'avoir une position éthique assez ferme et d'arrêter d'être ballotté, d'essayer d'être surpris et de voter contre. Voilà. Parce que les gens se définissent dans ce vote, je ne suis pas politologue, mais par un vote contre et pas par un vote d'adhésion. C'est une nouveauté de cette élection. Et pour pointer ceci, je vais vous lire un petit passage aussi, donc de l'ouvrage que j'ai eu le bonheur de faire paraître au Seuil, ça s'appelle Une dette, hein, c'est sur Deleuze, Duras et Debord, sorti il y a un mois. Voilà le petit extrait. Avons-nous besoin de changement? La désillusion n'est-elle pas à son tour porteuse de substituts prompts à remballer des désenchantements complices et bien pratiques? Quelle est la nature du besoin de déplacement des affects? Qu'est-ce qui se concrétise ou s'agrège dans les consciences et mentalités pour s'ordonner en discours contre ou pour? La prise de position, quels que soient les termes qui peuvent la singulariser, n'est-elle pas, elle aussi, une prise de participation, entre guillemets? Deux points. L'adversité confondue avec l'aversion, la pandémie du contrepoint, l'alternative du « ou bien » à éclat, là où la parole critique considérée comme une dénonciation. Et ça, d'être obligé de participer, d'être obligé d'avoir une position, est un signe marquant d'une aliénation moderne. Et nous le voyons au Danemark avec la privatisation de la NPE. Au Danemark et en Suède, et bientôt en Belgique, au Luxembourg, alors la France, c'est dans les tablettes, il est question d'avoir non seulement une santé à la carte et une retraite à la carte, mais la recherche d'emploi va être confiée au privé. Vous voyez ce que la boucle sera bouclée. Voilà, à bientôt.
Vos peurs parfois lorsque je prends des coups, vos soulagements lorsque je me relève.
Saisissez-vous de cette échéance, faites-vous, construisez cette candidature.
C'était Emmanuel Loye, une chronique à suivre la semaine prochaine, même jour, même heure, même zone. Et conformément à ses souhaits, un petit zappa pour la route.
Ceux et celles qui voulaient nous faire taire sont obligés de reconnaître...